RCF. C'est au bord du lac de Constance, au sud de l'Allemagne, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous rencontrer, docteur Françoise Wilhelmine de Toledo. Vous êtes la directrice de la célèbre clinique de jeunes créée par Otto Büringer, ici à Überlingen, il y a une soixantaine d'années. Vous êtes devenue l'une des spécialistes mondiales du jeûne et notamment du jeûne thérapeutique. Alors nous allons avec vous aujourd'hui découvrir bien des aspects et des bienfaits méconnus du jeûne. Mais avant cela, j'aimerais que l'on fasse d'abord un peu connaissance avec vous, car non seulement vous étudiez scientifiquement le jeûne, vous accompagnez des milliers de jeûneurs chaque année, mais vous le pratiquez également vous-même depuis une quarantaine d'années. Je crois pourtant savoir que votre première expérience de jeûne ne s'est pas très bien passée. Vous voulez bien nous raconter cela ?
J'ai découvert le jeûne en lisant un livre d'un non-médecin qui considérait un peu le jeûne comme une panacée. Ce livre était extraordinairement alléchant. J'avais l'impression que tous les problèmes étaient résolus quand on faisait un jeûne. Et donc, moi-même étant à cette époque-là dans une situation de grande crise personnelle avec ma famille, j'avais 16, 17 ans, et c'était l'époque de 68, un peu plus tard, mais où finalement tout était remis en question. J'ai une famille quand même très classique, très autoritaire, très patriarcale, donc j'étais en recherche de tout et en désaccord avec tout. Donc je lis ce livre et puis je me dis ça, il faut absolument que j'essaie. Et je dois dire que cette inspiration, c'est vraiment ce que je dois faire. Ça, c'était peut-être pas parce que le livre était si alléchant, je pense que ça touchait quelque chose de profond en moi. Alors j'ai commencé à chercher un endroit.
Vous avez jeûné seul à ce moment-là?
À ce moment-là, j'ai jeûné seul parce que je ne trouvais rien, aucun endroit, je ne trouvais pas de personne qui me guidait. Donc j'ai décidé que j'arrêtais de manger, c'était tout. Et effectivement, comme je l'ai écrit plus tard et observé beaucoup de fois, les 2-3 premiers jours sont un peu difficiles, mais après j'étais dans cette espèce d'état d'euphorie. Et ça allait très 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 bien. Et puis j'ai commencé à perdre du poids. À l'époque, là, tout le monde était content de perdre du poids, qu'on soit gros ou mince. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, peut-être que maintenant ça suffit. Et je me suis rendu compte que j'avais aucune idée comment j'allais sortir de la chose, n'ayant plus aucune envie de manger, me sentant très très bien. Et j'ai cherché quelqu'un qui m'aide et j'ai trouvé personne. Donc là, dans le manuel que j'avais, enfin dans ce livre, on n'expliquait pas le mode d'emploi, on n'expliquait pas la physiologie, on n'expliquait rien de tout ce que j'ai décidé par la suite qu'il fallait qu'on mette au point.
Et alors, est-ce que c'est cette expérience de jeûne qui a été difficile, on le voit, pour sa sortie plus que pour l'expérience du jeûne lui-même. Est-ce que c'est cette expérience du jeûne qui vous a donné envie de devenir médecin et de vous consacrer au jeûne ?
Non, pas vraiment. Cette expérience du jeûne, au fond, m'a même pas donné vraiment envie de continuer à jeûner parce que je ne savais même pas ce que c'était que le jeûne. J'ai compris plus tard. Alors là, j'étais dans un endroit, dans une espèce de clinique, où il y avait un médecin en Autriche, j'ai suivi une méthode spéciale, et là, j'ai compris que le jeûne était un processus, et ce que ça faisait au moins avec le corps. Là, ça m'a donné envie de continuer à jeûner, mais mon envie de devenir médecin, elle est depuis toujours. J'ai toujours eu envie d'être médecin, mais je viens d'une dynastie de pharmaciens, et mon père, un patriarche, qui est d'ailleurs mort l'année passée à 100 ans, voulait absolument que j'étudie la pharmacie. Et là, j'ai eu un conflit terrible avec lui jusqu'au moment où je suis tombée malade, carrément. J'ai eu une maladie de Hodgkin. Aujourd'hui, j'en parle. Et c'est donc un lymphome qui a demandé un très, très gros traitement, une grosse opération. Et à partir de ce moment-là, mon père était bien trop content que j'étudie n'importe quoi, ce que je voulais. Et donc, j'ai pu étudier la médecine. Et en médecine, j'étais déjà un petit peu en porte-à-faux, disons, entre ce que j'avais expérimenté autour de ma maladie, avec la doctoresse Kousmin, avec le jeûne, et puis ce que j'étudiais.
Mmh. Et alors, est-ce que le fait, justement, d'être tombé gravement malade a changé quelque chose, je dirais, dans votre mentalité d'étudiant en médecine, puis de médecin. Je vous pose cette question parce que j'ai remarqué que le grand-père de votre mari, Otto Büchinger, qui a fondé cette clinique dans laquelle nous sommes, est lui-même tombé malade. Et c'est pour se guérir qu'il a découvert le jeûne. On pense bien sûr tous à David Servan-Schreiber, qui aussi, en tombant malade, a changé complètement son regard sur la médecine. Est-ce que vous, l'expérience de la maladie a été finalement très importante dans votre expérience de médecin?
Bon, elle a été fondamentale. Absolument fondamentale, pas trop dans ma vocation, mais dans l'orientation médicale que j'ai prise par la suite, parce que j'ai rencontré la doctoresse Catherine Kousmine à Lutry en Suisse, et dont j'étais une des premières élèves, et que je revoyais chaque année, qui est venue plusieurs fois à la clinique Büchinger, et qui a été pour moi vraiment, disons, la base de tout ce que je sais en médecine aujourd'hui. Ça vient d'elle, toute la réflexion médicale, et c'est une réflexion très basée sur la capacité d'un être humain à prendre sa santé en main. Alors chez elle, ça passait beaucoup par l'alimentation, mais il y avait aussi tous les autres domaines. Elle comprenait aussi que les influences psychiques, même si elle n'était pas la spécialiste là-dedans, elle comprenait aussi les influences, disons, du manque d'exercice physique, du manque de sommeil. Donc elle m'a donné toutes les bases d'une pensée de médecine intégrative.
Et en même temps, Catherine Kousmine est connue davantage sur toutes ses recherches autour de l'alimentation et d'une alimentation saine, mais pas autour du jeûne.
Eh bien, le jeûne suit le même processus mental ou physiologique que l'alimentation saine. C'est très complémentaire. Et d'ailleurs, quand je l'ai connue donc comme patiente d'abord, elle m'a expliqué toutes les bases. J'ai mis des années à pouvoir les appliquer, hein, il faut bien vous dire. Ça n'a pas été quelque chose de facile de changer mon style de vie, mais je sentais que c'était juste, je voulais aller dans cette direction. Et ensuite, quand moi j'ai découvert le jeûne, comme je la revoyais régulièrement chaque année plusieurs fois, j'ai compris qu'elle était tout à fait d'accord. Mais elle disait parfois, on peut faire aussi des jeûnes courts, donc c'était dans la durée où on était des fois, mais on avait au fond absolument les mêmes vues.
Mmh. En quoi le docteur Catherine Kousmine a été vraiment, je dirais, très importante dans votre vie? Je dirais au niveau humain, qu'est-ce qu'elle vous a transmis?
Tout d'abord, c'était un médecin, moi, qui sortait de l'hôpital où on m'avait opéré, enlevé la rate, irradié, enfin bon, selon des protocoles, je pourrais dire. Ça a été bien fait, il faut bien le dire. Hein. Mais elle est arrivée là et puis elle a commencé à essayer de me connaître. La discussion, elle m'a posé des questions que personne ne m'avait posées. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui essayait de comprendre ma personnalité, mon histoire, où est-ce que je me situais en ce moment. Et puis ensuite, qui a pris la peine de m'expliquer pas à pas toute l'alimentation. Elle prenait une heure et demie avec chaque patient. Et ça, pour moi, ça a été... Et en plus, j'adorais sa personnalité. C'était une femme extrêmement sévère, extrêmement. Elle m'a passé des savons invraisemblables quand, par exemple, je n'avais pas suivi mon régime. Mais de temps en temps, son regard s'illuminait. C'était de l'or pur. C'est être prise en charge par une personne comme elle, c'était déjà la moitié de la guérison, je dirais.
Alors, docteur Françoise Villemy de Toledo, comment avez-vous été conduit à consacrer votre vie vraiment aux jeunes, comme vous le vivez aujourd'hui, comme vous l'enseignez, comme vous le pratiquez dans cette clinique Büchinger où nous sommes pour cet entretien?
Vraiment la pratique personnelle. J'ai commencé à donc découvrir une méthode pour jeûner, qui n'était pas encore la méthode Büchinger, c'était une méthode autrichienne. C'était pas parfait du tout, mais c'était beaucoup mieux que ce que j'avais fait la première fois. Donc j'y allais régulièrement, et pour moi, ça a été chaque fois des expériences quand même extraordinaires. Des expériences tout d'abord de bonheur, d'un espèce de bien-être, d'une sérénité que je ne connaissais pas, et que je ne connaissais pas, toujours pas, dans la durée. Ça se passait pendant le jeûne, quand je retournais chez moi, je retournais un petit peu dans cette dysfonction. Donc je me rendais très bien compte qu'il y avait deux états, un état de sérénité complète, où c'était pur bonheur, tout, où j'avais besoin de rien, et puis l'état de dysfonctionnement que j'essayais par la psychothérapie, par la psychanalyse, par toutes sortes de méthodes de comprendre. Donc c'est vraiment la pratique personnelle aussi, c'est tellement extraordinaire, sans compter que ça m'a permis d'améliorer tellement de maux. Je veux dire, dès que j'avais un problème, un mal de dos, une articulation, trop de cholestérol, enfin pour moi, tout de suite, la réponse était le jeûne. Mon jeûne annuel, qui est devenu un jeûne bisannuel après, était vraiment une expérience tellement extraordinaire que c'était évident pour moi que c'était thérapeutique et que c'était ce que je voulais faire.
Et alors, votre rencontre avec la famille Büchinger,
ouais,
qui qui vous a conduit en ce lieu?
C'est de nouveau, c'est, bon, c'est synchronicité. J'ai une très très bonne amie avec qui j'étudie la médecine, c'était ma meilleure amie à l'époque. Et je lui avais jamais dit que j'allais jeûner dans cet endroit en Autriche qui était assez loin. Et pendant notre finale de médecine qu'on préparait ensemble, elle me dit, on a commencé à parler, tourner un petit peu autour du pot, puis j'ai compris qu'elle n'était pas horrifiée quand je lui disais que je jeûnais. Elle me dit, non mais attends, mais mon père va dans un endroit extraordinaire, il jeûne régulièrement, et moi aussi j'ai déjà fait ça, donc une révélation. Elle me dit, mais va à la clinique Boehringer, c'est beaucoup plus près, c'est au bord du lac de Constance, et là-bas, il y a des gens très bien, enfin ça se passe très bien. Alors j'ai suivi son conseil, et puis la méthode était assez similaire à ce que je connaissais, mais beaucoup plus structurée. Et surtout, dans la reprise alimentaire, était mieux faite. Et là, j'ai rencontré tout d'abord la médecin qui s'est occupée de moi et qui m'a demandé de venir faire un remplacement quand j'aurais fini mes examens de médecine.
Parce que là, c'était vraiment un jeune qui était suivi médicalement.
Oui, et l'autre aussi, mais cette fois-ci, il y avait des masseurs, il y avait des psychothérapeutes, il y avait tous les corps des métiers thérapeutiques qui accompagnaient des promenades, une espèce de rite, de rituel. J'ai assez croché, je trouvais que la méthode était très, très convaincante. Et là, donc, quand je suis revenue faire le remplacement, c'est là que tout d'un coup, j'ai rencontré mon futur mari, Raymond, qui était en fait avec son père. Il était en train de s'initier à être le chef junior.
De la clinique Boehringer.
De la clinique Boehringer.
Visage, RCF.
Alors, docteur Françoise Villemy de Toledo, pourquoi jeûner? C'est une question qui, vous semble étonnante, puisque cela fait des années et des années que non seulement vous jeûnez vous-même, mais vous accompagnez des gens qui viennent jeûner. Mais vous le savez, le jeûne fait peur. Pour beaucoup de gens, il est synonyme de faim, voire de malheur. Alors, pourquoi jeûner? Quels seraient, je dirais, les premiers arguments que vous donneriez pour expliquer et justifier le jeûne?
Tout d'abord, faire l'expérience d'une capacité innée qu'on a en nous-mêmes. Exactement comme je dirais, il faut avoir une fois eu un enfant dans sa vie si on est une femme, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il faut l'avoir vécu. Donc, vivre un jeûne est une expérience unique. À mon avis, chaque être humain malade ou en bonne santé devrait avoir eu une fois dans sa vie.
Mais vous dites c'est inné. Pour beaucoup de gens, ça l'est pas du tout. Ils ont pas envie. Moi, je peux vous dire, j'ai testé autour de moi, j'en ai parlé à des gens. Ils me disent, oh, non, moi jamais, je pourrais jeûner.
Et pourtant, c'est inné. C'est-à-dire, on voit bien chez les animaux, tous les animaux pratiquent le jeûne. Les animaux qui sont près de nous, les oiseaux migrateurs, enfin. Donc, l'être humain simplement a une abondance de nourriture en permanence. Non, à notre époque, mais c'est récent.
Qu'est-ce qui vous fait dire que le jeûne est inscrit dans la nature humaine, qu'il est naturel? C'est ce que vous écrivez dans votre livre.
Oui, c'est tout simplement que toute vie sur la planète Terre est soumise à ces régimes de saison. Il y a des moments où il y a du soleil, il y a des moments où il y en a beaucoup moins. Donc la nourriture n'est pas continue. Il n'y a pas une production de nourriture continue. La nourriture, on l'a dans certaines saisons, mais on n'en a plus dans certaines autres. Donc toute la vie a dû s'adapter à cet apport discontinu de nourriture. Donc quand il y avait de la nourriture, on devait manger beaucoup, faire des réserves sous forme de graisse, parce qu'automatiquement après, il y avait la saison où il n'y avait plus rien à manger. Les réserves étaient rapidement écoulées puisqu'il n'y avait pas de technologie de conservation. Donc il fallait que l'être vivant, animal, humain, développe des méthodes, des stratégies pour survivre. Et il y en a eu beaucoup. La première, c'est la fabrication de graisse qu'on stocke dans notre propre corps, qui est au fond notre alimentation dans les périodes. Donc c'est ça, quand on dit que c'est naturel, ça veut dire, ça fait partie de la vie, mais dans les 60 dernières années, on n'a plus besoin vraiment d'utiliser cette faculté, puisqu'on a tout le temps à manger, et tout le temps trop à manger. Moi je dirais, en ce moment où on a tout le temps trop à manger et pas de la bonne nourriture, c'est là qu'on devrait absolument réintroduire, même si c'est artificiellement, cette faculté qu'on a de vivre de nos réserves, puisqu'on en a trop. Ça tombe sous le sens.
Mmh. Ici, dans cette clinique d'Umberlingen, qui a été fondée déjà en 1953, mais aussi dans beaucoup de cliniques en Allemagne, le jeûne est pratiqué. Et grâce à vous, j'ai découvert qu'également en Russie, à Goriatchinsk, en Sibérie, le jeûne est pratiqué de manière thérapeutique, voire même remboursé par la sécurité sociale. Comment expliquez-vous qu'il y a un tel décalage entre l'Allemagne, par exemple, qui, soi-disant, accueille le jeûne vraiment dans les hôpitaux, 15 à 20% des Allemands auraient déjà jeûné, et que les Français soient aussi hermétiques et fermés au jeûne?
Ah bon, moi, je ne pense pas que le français est hermétique et fermé. Je vois au contraire une très grande ouverture en ce moment. Mais il est vrai qu'il y a une grande résistance. Peut-être parce que le français se définit par sa nourriture, par sa gastronomie, et qui pense que le jeûne, c'est de l'anti-gastronomie. En tout cas, en Allemagne, nous avions la même situation que je constate en France en ce moment. Nous l'avions il y a 20-25 ans en Allemagne. Tout d'abord l'ignorance des gens, et puis ensuite on a mis le jeûne dans le domaine de la perte de poids, de la lutte contre l'obésité. Elle est là, il y a des énormes lobbies qui donnent des diètes protéinées, qui donnent un tas de médicaments, et au fond pense pas que les méthodes naturelles soient, c'est pas lucratif, donc ça rentre pas dans le marché. Donc je pense qu'il y a eu une opposition essentiellement venant de cette partie-là. Et puis en plus, spontanément, quand on sait pas ce que c'est que jeûner, comme vous dites, ça fait peur, on se dit, mais mon Dieu, moi j'adore manger, je vais être malheureux, et puis je vais m'ennuyer, et puis je vais avoir froid, et puis... Alors, personne ne sait encore qu'il y a une méthode, qu'il y a toute une espèce de savoir-faire là-dedans, qu'on ne fait pas ça n'importe comment, qu'on fait ça peut-être en groupe, donc on retrouve une vie sociale, entre guillemets. Il y a beaucoup d'inconnus et d'ignorance, tout simplement, malheureusement.
Mais alors pourquoi, et là je reviens, j'insiste un peu là-dessus, pourquoi toutes ces recherches qui sont menées, par exemple en Russie, des scientifiques ont étudié les bienfaits du jeûne, des médecins allemands, on le voit aujourd'hui aux États-Unis, en Californie, des médecins s'intéressent à tout ça. Pourquoi est-ce qu'en France, on a si peu d'informations là-dessus? Pensez que c'est quoi? C'est l'esprit cartésien français? Ce sont les lobbies pharmaceutiques? À quoi faut-il?
À mon avis, les Français sont tout aussi réceptifs que les autres. Ils sont tout simplement pas... Bien, en Allemagne, il y a eu quand même le docteur Otto Buchinger, qui a quand même été une personnalité, qui a compris ce qu'était le jeûne et qui l'a décliné dans toutes ses dimensions. Le jeûne n'est pas seulement thérapeutique, il a sa dimension spirituelle et il a sa dimension, disons, je dirais, humaine, sociale, du groupe de jeûneurs. Cette équivalence, on n'a pas en France. En France, on a des courants qu'on appelle hygiénistes et du jeûne à l'eau qui viennent plutôt d'Amérique, mais il n'y a pas eu une personnalité avec des centres comme on l'a en Allemagne. Et je pense vraiment que la grande diffusion du jeûne en Allemagne vient du fait qu'Otto Buchinger est connu, qu'il y a eu des manuels qui ont été faits très vite et qu'il y a eu très vite des formations de guides de jeûne, des gens qui n'étaient pas des médecins seulement, mais aussi des médecins. Et donc, il y a eu tout un espèce de mouvement. Il y a eu tout d'un coup des moines qui ont parlé du jeûne. D'ailleurs, en France aussi, vous avez à la Pierre qui vire un moine qui a écrit, le père de Lavoguet, qui a écrit « Aimer le jeûne ». Si vous regardez un peu en France, vous trouverez beaucoup de connaissances sur le jeûne. Mais je pense qu'il manque encore en France un centre, une école, des médecins, des livres, des manuels qui vraiment... Mais je pense que ça va venir. Moi, je suis sûre qu'en 10-15 ans, on sera au même point en France qu'on est en Allemagne aujourd'hui.
Alors, je peux vous dire que j'ai été voir la revue Le Pharmacien de France, la revue de novembre 2012, et j'ai relevé cette phrase. La majeure partie du jeûne thérapeutique relève de la croyance non scientifiquement prouvée. C'est la date de novembre 2012 du Pharmacien français.
Dans le même article, vous trouverez quand même pas mal d'arguments positifs. Mais celui-là est un pur exemple d'ignorance. Quelqu'un qui se permet d'écrire simplement parce qu'il ne connaît pas les publications scientifiques. Nous allons avoir le 29-30 juin à Überlingen un grand congrès international avec tous les scientifiques du moment qui ont fait des publications dans les plus grands journaux, notamment, comme vous le disiez, aux États-Unis. Et il y a une recherche sur le jeûne, des publications, mais ces gens ne la connaissent pas. Donc ils prétendent tout simplement qu'il n'existe pas de publication. Mais nous allons mettre sur Internet ce congrès et donner un lien sur toute la banque de données où nous avons relevé toutes les publications, disons, actuelles et scientifiquement indiscutables que les médecins devraient connaître.
Est-ce qu'il y a là une opposition entre ce qu'on pourrait appeler le marché de la maladie et le marché de la santé?
Moi, je pense que très, très certainement... L'organisation du marché de la maladie, qu'on appelle le marché de la santé d'ailleurs, c'est une organisation qui est basée sur le médicament, l'appareil diagnostique, l'appareil en général, et donc qui génère des marchés. où finalement, par exemple, on n'a pas tellement intérêt dans ces marchés-là qui sont extraordinairement puissants et lucratifs de soigner un diabétique, par exemple. Si le diabétique perd du poids, s'il fait un jeûne d'une durée assez longue et qu'il change son style de vie, il n'a plus besoin même d'insuline, plus besoin de médicaments la plupart du temps. Donc au fond, le diabète est juste une maladie du trop quand ça part. Eh bien... Bien sûr que dans les algorithmes thérapeutiques, on dit oui, il faut d'abord conseiller aux gens de perdre du poids, mais en réalité, le médecin donne tout de suite des médicaments. Et les gens sont trappés là-dedans, mais c'est très, très lucratif. Ils sont pour leur vie, ils ne meurent pas, ils ont tout le temps des problèmes supplémentaires. Donc ça engendre un marché très, très important. Ces marchés engendrent, disons, des capitaux qui peuvent permettre de faire des études, qui sont extraordinairement coûteuses. Ces études pouvant, à ce moment-là, documenter l'effet d'un médicament ou d'une méthode.
Mais il n'y a pas de budget aujourd'hui pour faire des études vraiment efficaces sur les bienfaits du jeûne ?
Non, c'est très très difficile à trouver. Il y a quelques fonds. Nous avons par exemple notre collègue, le professeur Yvon Lemao à Strasbourg, mais lui fait des recherches sur le métabolisme de l'animal. Par exemple, et cela...
Et notamment le manchot empereur.
Le manchot empereur, l'oiseau migrateur, mais le python, le...
Mais dans le but de l'adapter aux hommes quand même ou
Dans le but de comprendre la physiologie et d'en déduire des lois sur l'écologie. Parce que le jeûne, par exemple, des manchots, va nous permettre de comprendre comment est l'état écologique de la région. Donc, chez eux, c'est un domaine extraordinaire. Ce sont des études fascinantes, mais pas très connues du grand public. Pour le reste, en général, ce sont les industries pharmaceutiques qui ont les moyens de faire des études. Si, parce qu'elles vont obtenir une substance qui va être patentée, et cette patente va permettre de retrouver leur mise de départ et de la doubler ou de la tripler. Ou de la... Par contre, si vous voulez faire une étude sur le jeûne, vous ne pouvez pas vendre grand-chose. Donc, vous prouverez que c'est très, très efficace. Mais comment allez-vous retrouver les centaines de milliers d'euros qu'il vous faut pour faire une étude alors que vous ne mettrez pas une patente sur le jeûne?
Docteur Françoise Villemy de Toledo, nous poursuivons cet entretien aujourd'hui sur RCF à partir de votre expérience du jeûne que vous pratiquez vous-même et puis bien sûr que ces milliers de jeûneurs que vous accompagnez ici dans la clinique Boehringer au bord du lac de Constance. Alors j'aimerais voir avec vous, rapidement bien sûr, mais quels sont les bienfaits du jeûne et notamment d'abord d'un point de vue physiologique, parce qu'on ne jeûne pas que pour maigrir. Même si on pense tout de suite à ça.
Oui, bien sûr que le jeûne fait maigrir puisqu'il mobilise les réserves. Mais en mobilisant les réserves de graisse, il y a toutes sortes de phénomènes physiologiques qui amènent à normaliser toutes les maladies du trop, c'est-à-dire normaliser le cholestérol, les graisses sanguines, normaliser le sucre sanguin, c'est-à-dire dans le cas du diabète. Et puis, il y a tout un aspect anti-inflammatoire et on le sait aujourd'hui, anticancéreux. Mais l'aspect anti-inflammatoire veut dire que quand vous vous mettez à jeûner, au bout de 3-4 jours, donc très rapidement, l'état inflammatoire, par exemple, d'une articulation, mais aussi, par exemple, une allergie, peut tout d'un coup s'améliorer d'une façon extraordinaire. Donc, symptomatiquement, on a une amélioration de presque tous les processus douloureux.
Et ça, vous l'avez observé sur combien de patients qui sont passés ici, dans cette clinique ?
Écoutez, on en a à peu près, entre nos deux cliniques, parce que nous avons aussi une clinique dans le sud de l'Espagne, à Marbella, nous avons en tout pratiquement 3500 personnes qui jeûnent chaque année.
Et ça, depuis 60 ans,
depuis 60
ici,
ans,
et 40 ans à Marbella, vous observez...
On observe les mêmes. Parfois, c'est tellement stupéfiant qu'on peut même pas en parler. Mais vraiment, des personnes qui arrivent pour des maladies articulaires, par exemple, des genoux, mais aussi des épaules ou des doigts, qui s'améliorent dans l'espace de quelques jours, et à qui on peut promettre que cette amélioration durera pour autant... qui changent quelque chose, spécialement à leur alimentation, mais leur style de vie en général. Donc évidemment, tous les bienfaits du jeûne, par exemple, quand on baisse la pression artérielle, c'est très rapide, mais pour arriver à ce que ça dure dans le temps, on doit quand même faire un changement de son style de vie, faire plus d'exercices physiques, disons avoir un rythme peut-être plus naturel, dormir assez longtemps la nuit, avoir suffisamment de pauses, manger. Alors là-dedans, il y a toutes les guidelines de l'alimentation. Et puis l'équilibre émotionnel, évidemment, qui dans tout le processus de maladie a un rôle fondamental.
Donc tout est lié, en fait.
Il faut en tout cas avoir un ensemble de mesures quand on veut changer son style de vie. Évidemment, on peut dire « je mange moins de graisse ». C'est déjà un début si on mange les bonnes graisses à côté de ça. Mais on peut aussi voir la chose dans son ensemble. Et puis se dire « ok, on n'est pas juste un corps ou pas juste un tube digestif, mais on est une personne entière ». Et parfois, on n'arrive pas à faire des modifications d'un style de vie parce qu'on est dans un état dépressif ou parce qu'on n'arrive pas à faire un pas décisif pour son développement personnel, qu'on reste dans une routine qui nous rend, disons, amorphe. Donc, il faut voir aussi dans le contexte psychique, spirituel dans lequel une personne se trouve pour pouvoir lui proposer, en fait, après le jeûne, avec cette conscience plus aiguë, aiguisée par le jeûne, et cette motivation de faire des changements, dans quelle direction peuvent aller ces changements?
Parce que justement, est-ce que la pratique du jeûne, je dirais, réveille des souvenirs intérieurs, fait travailler au niveau psychologique, au niveau profond des émotions?
Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se marque par exemple par des rêves très abondants, et puis de temps en temps des retours, comme on ferait par exemple dans une psychanalyse. Tout d'un coup, on a des scènes qui nous reviennent, où on a des crises de larmes, où on peut avoir vraiment des catharsis, comme le disait Freud, c'est-à-dire des événements profondément refoulés qui remontent à la surface. Ça, c'est très certainement dû au fait qu'on n'a pas toutes les distractions habituelles et pas tous les plaisirs habituels. Donc, au fond, la vie est beaucoup plus consciente quand on jeûne. On est beaucoup plus présent, et aussi pour les émotions très, très positives, hein. On peut aussi accompagner ce travail, disons, le vouloir, c'est-à-dire essayer de se dire, bon, j'analyse ma vie en tranche de 7 ans, ou bien j'essaie de me dire, bon, quels ont été les événements importants, est-ce qu'il y a encore des blocages dans ma vie, est-ce qu'il y a des personnes avec qui je suis en profond conflit, par exemple, et puis vouloir guérir ces blessures anciennes.
J'ai vu dans votre livre que vous écrivez ceci, « Le jeûne réveille l'enfant intérieur ». Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une observation que les gens sont beaucoup plus sensibles, émotionnels et apprécient des choses peut-être que dans le quotidien ils ont oublié d'apprécier, mais qu'ils aimaient comme enfants. En plus, il y a une analogie qui a peut-être une importance, c'est que lorsqu'on jeûne, on va très bien, sans apport de nourriture extérieure, parce qu'on consomme pratiquement nos réserves de nourriture qui sont sous forme de graisse dans notre corps. Alors on brûle ça et ça... Et c'est une situation qui est un peu analogue à la situation qu'on avait à l'intérieur du ventre de la mère. Quand on était en gestation, on ne mangeait pas non plus par le tube digestif, par la bouche, ni rien, mais c'était la mère qui nous nourrissait. Donc, on avait une situation où les organes digestifs étaient au repos, mais où on allait très bien, et même tellement bien dans le ventre de la mère qu'au fond, c'est ce bien-être, cette unité. Et peut-être quand on jeûne, on revient un petit peu dans cet état presque fœtal. Donc, où on est plus sensible, plus émotionnel, plus acceptant aussi, par exemple, pour la proximité, une infirmière qui vient vous faire un enveloppement chaud, c'est quelque chose de très physique, de très intime, comme contact, et les gens apprécient beaucoup plus que dans leur quotidien, souvent.
Vous proposez beaucoup de choses ici, dans cette clinique, pour accompagner les jeûneurs. Des massages, des activités artistiques. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce aussi important de nourrir son être intérieur, oui, quand on est ici? Et de soigner son corps aussi.
Oui. On a une grande abondance de propositions thérapeutiques et puis d'offres, tout simplement, comme vous dites, artistiques ou autres. Parce que pour chaque personne, il faut trouver les compléments qui vont soutenir l'effort et puis vont aussi lui donner des plaisirs. Comme on n'a plus le plaisir de manger, on peut avoir le plaisir de faire un dessin, le plaisir de jouer avec la couleur, le plaisir d'aller faire une magnifique balade, randonnée dans la nature, qui est d'ailleurs aussi une nécessité de bouger physiquement dans le jeûne pour que le métabolisme soit entraîné.
Il faut faire de l'exercice. Voilà. Hein. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer, il ne faut pas rester couché dans sa chambre.
Ah non, il faut aussi être couché de temps en temps, mais il faut avoir un bon équilibre entre le repos et l'exercice physique quotidien. Donc, il y a certaines propositions qui sont là pour accentués pour supporter l'effet du jeûne, et d'autres qui sont là pour aider justement une évolution. La personne va peut-être aller voir le psychothérapeute, d'autres vont aller chez le physiothérapeute, les troisièmes iront peut-être à la cosmétique et chez le coiffeur, et puis d'autres iront à la méditation, et puis d'autres encore iront peut-être aux offices qu'il y a dans les églises aux alentours. Et souvent les gens nous disent, mais je suis rentrée à l'église comme ça, ça faisait tellement longtemps que je n'y avais plus été, et je me suis juste assis et j'étais heureux. Il y a un retour, disons, la fin de spiritualité, la fin d'une autre dimension se fait sentir tout simplement parce que le corps n'étant plus rassasié, sur-rassasié, il y a une autre fin plus subtile qui se fait jour.
Alors justement, Françoise Villemil-Toledo, vous nous parlez de cette fin plus subtile de spiritualité qui fait jour quand on jeûne. Toutes les religions encourage aux jeunes. Quand on regarde bien, les chrétiens avec le carême, les musulmans avec le ramadan, les juifs au moment du Yom Kippour, mais aussi dans l'hindouisme, le bouddhisme, on encourage les gens à jeûner. Y a-t-il un lien étroit entre l'acte de jeûner et la dimension spirituelle ?
Je pense que il y a une très forte analogie entre l'effet physiologique de jeûner, qui est utiliser la nourriture intérieure. Puisque la graisse est dans notre corps, on devient autonome de l'extérieur, on va vers l'intérieur. C'est le même mouvement spirituel. C'est un mouvement que les religions accompagnent par une liturgie particulière, par des préparations liturgiques, justement avant le jeûne. Il y a beaucoup de rituels pour préparer les gens et utiliser au fond cet état de renoncement volontaire pour accueillir, disons, une réalité intérieure, pour la renforcer, peut-être pour avoir... une communication, Dieu me dira quelque chose, ou je verrai mon chemin plus clairement. Donc il y aura des révélations qui peuvent se faire dans cet état. Mais les religions ont aussi vu l'aspect communautaire du jeûne. Des personnes qui jeûnent ensemble sont des personnes qui sont très proches les unes des autres.
On ne s'isole pas dans le jeûne ?
On peut, si on a plutôt la nature d'un ermite, on peut avoir besoin de solitude dans un jeûne, mais c'est une solitude reliée. Dans un jeûne, quand par exemple une personne dit « j'aimerais pas se faire un jour de solitude », elle reste dans le groupe, on lui laisse son autonomie. Donc c'est quand même toujours un phénomène communautaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme solidarité. D'ailleurs, chez les animaux aussi, le manchot preur ne supporte un jeûne d'une aussi longue durée dans les climats antarctiques que parce qu'ils sont capables de se réchauffer mutuellement en faisant les fameuses tortues, donc en se mettant très très proches les uns des autres, pour garder la température. Et les humains font la même chose. Il y a énormément de solidarité, beaucoup moins d'agressivité dans un groupe de jeunes. On n'a pratiquement jamais de conflit interpersonnel dans un groupe de jeuneurs. Donc ça, ce sont deux dimensions que les religions connaissaient intuitivement, plus la dimension physique quand même. La religion, c'est aussi guérir quand tout d'un coup on a moins mal à la tête, ou bien qu'on a plus mal au ventre, ou bien que tout d'un coup la peau devient beaucoup plus lisse, et que les impuretés disparaissent, l'acné disparaît. Tout ça, ce sont des petits phénomènes de guérison. C'est aussi la présence du divin en nous, la guérison. Qu'un corps soit capable, en ne faisant rien d'autre que de laisser les forces de régénération propre, leur propre activité. Et puis voir la guérison, c'est quand même quelque chose qui est profondément spirituel, à mon avis.
Vous avez utilisé l'expression de lâcher prise aussi en parlant du jeûne. En quoi est-ce que c'est un lâcher prise ?
C'est quand même renoncer à des plaisirs très profondément ancrés dans notre physiologie. On mange quand même 3 fois par jour au moins. Et chaque fois avec un grand plaisir, ça rythme nos journées, ça rythme la convivialité, il y a des histoires de prestige, il y a le plaisir de cuisiner, enfin, il y a énormément de plaisir et de convivialité qui tournent autour de la nourriture. Tout ça, il faut y renoncer, mais surtout pas être dans un état de manque. Et c'est là que le lâcher prise intervient. Si vous êtes tout le temps en train de dire « non, j'ai pas le droit, mais dans 10 jours, je pourrais », c'est un état qui n'est pas un état de jeûne, c'est un état de manque permanent où on reste dans l'hypertension, on reste dans la nervosité. Mais il y a un moment donné où on doit basculer, on se laisser aller là-dedans, dire « ok, j'ai mes réserves intérieures, j'ai ma graisse, tout ça, je peux être nourri pendant 40 jours bibliques de Jésus, de Moïse, de beaucoup de prophètes, sont exactement le temps qu'une personne de poids normal peut passer avec ses propres réserves de graisse, de protéines, etc. » Donc, se laisser aller à la confiance que mon corps sait jeûner, sait parfaitement vivre sans nourriture extérieure pendant un certain moment. Et plus j'accepte moins je lutte, plus j'aurai des bonheurs intenses, autres. Je passe dans une autre dimension, qui est la dimension qui est beaucoup plus, je dirais, dématérialisée. Un peu, c'est plus la dimension de la consommation, c'est une dimension de la révélation, de l'émerveillement, de la présence, de l'attention, bien sûr aussi de la prière, qui monte, mais c'est pas une prière forcée, c'est une prière qui monte, une prière de reconnaissance, souvent. Et tout ça, c'est vraiment qu'avec le lâcher-prise. Parce que si on compte les jours et qu'on se pèse toutes les 3 minutes pour voir si on a perdu du poids, on n'est pas dans cette dimension-là.
Visage, Thierry Lyonnais.
Vous parliez il y a quelques instants de la dimension communautaire du jeûne. Depuis 1982, vous assurez un suivi médical d'un groupe intitulé « Jeûne et prière » avec la communauté de Grandchamp, la communauté œcuménique de Grandchamp, près de Neuchâtel en Suisse. Qu'est-ce que vous avez découvert à jeûner et prier avec ces moniales de Grandchamp?
La fascination pour moi, c'était de voir qu'elle voulait redécouvrir une méthode sûre médicalement pour jeûner, alors que le jeûne était quand même un trésor de l'Église. Donc elle voulait un petit peu se réapproprier un rituel,
une tradition.
Une tradition, c'est ça. Et alors, je leur ai enseigné la méthode Boehringer, qui est une méthode quand même assez complète et assez pratique, parce qu'on la comprend vite. Et alors, elle, au bout de 3-4 jours, elle m'a dit, bien, chaque jour, nous allons avoir une attention différentes. Alors une fois c'était pour la faim dans le monde, une fois c'était pour la guerre dans tel pays, une fois c'était pour des moniales d'une communauté. Et j'ai constaté que c'était des femmes qui spontanément ne faisaient pas les choses pour elles-mêmes. Elles utilisaient cette tradition pour immédiatement donner cette énergie plus loin. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis ensuite, disons, le groupe, ce n'était plus les sœurs, ça a été les novices l'année suivante, et puis après, de plus en plus, ça a été des personnes extérieures. Et comme je travaille dans ce groupe comme médecin, mais avec une grande amie à moi, la sœur Christiane Méraud, qui est au fond, qui fait l'accompagnement plus spirituel, bien que chez nous, ça s'est beaucoup confondu entre-temps. Elle sait presque autant de médecine que moi, et moi, j'ai beaucoup retrouvé ma tradition chrétienne grâce à elle, le Premier Testament aussi, le deuxième, qui nous nourrit en permanence. Alors, on est nourri par les textes, on est nourri par les chants, par la répétition de certains textes, par les psaumes dans la communauté, qui se réunit 4 fois par jour pour les offices, où en général le groupe va aux offices, bien que ce soit facultatif, mais c'est ça vraiment, la nourriture.
Mais alors qu'est-ce que le jeûne apporte de plus? Parce que ce que vous venez de me décrire, vous allez faire une retraite dans un monastère, vous vivez ça, le rituel, le silence, la prière, mais le jeûne?
Je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, le jeûne est une attraction, parce que d'abord, on a presque tous trop de poids. Ensuite, on aimerait découvrir, enfin, dans certains milieux, il y a vraiment une attirance pour quelque chose de nouveau.
Presque une mode même pour certains.
Presque une mode, mais une mode intelligente, je dirais. Et donc, peut-être ça attire encore, c'est un élément nouveau qui fait que dans ces groupes de jeunes, on n'a pas toujours les mêmes personnes que les gens qui vont simplement dans un monastère, qui sont des habitués de la prière, si vous voulez. Il y a des gens qui sont souvent en recherche de spiritualité et qui se disent, tiens, ça c'est un endroit traditionnel, mais qui s'ouvre à des portes nouvelles. Alors moi, je vois souvent des gens qui viennent parce qu'ils veulent faire une retraite, mais ils ne veulent pas la faire trop traditionnelle. Alors ça rajoute quelque chose. Et puis, il y a quand même toujours l'aspect physique. Les gens ont des douleurs, ils ont des maladies, et alors ils sont attirés par cette espèce de... Oui, c'est cette méthode qui permet aussi bien de soigner son corps que de soigner son âme, et voilà.
Mais alors, une question très personnelle maintenant, quand vous jeûnez, est-ce que vous priez mieux que le reste de l'année? Vous ne jeûnez pas?
Oui. Alors, c'est peut-être pas les 2-3 premiers jours qui sont des jours de transition où finalement on dort, on est apathique, on est fatigué, ou peut-être des fois on est de mauvaise humeur. Il faut faire démarrer tout ça. Mais après, il y a des moments, disons, extraordinairement intenses dans la prière. Et l'écoute de la parole, pour moi, ça c'est ça. J'ai toujours... Je sais pas ce qu'on va lire, je ne sais pas quel est le texte, par exemple, que Sœur Christiane va prendre. Mais pour moi, je trouve immédiatement ce que je cherche. Alors, c'est comme un jardin zen, je dirais. La Bible, pour moi, le texte, la parole, est me parle dans ce que j'ai à vivre, donc m'éclaire dans le chemin qui est celui de ce jeune-ci. Ce ne sera pas le même que celui du jeune prochain. Donc, il y a une espèce d'écoute extraordinaire et d'assimilation que je n'ai pas d'habitude. Et en plus, vous savez, quand vous allez 4 fois par jour à l'office, et que souvent on répète les mêmes textes, donc ça finit par vous creuser, alors on les rumine.
On les mâche. Se nourrir de la parole, on dit souvent ça.
C'est vraiment beaucoup de ces expressions qui ne me parlent pas d'habitude, me parlent dans cette retraite en état de jeûne. Et puis il y a évidemment le fait que quand on jeûne, on dort beaucoup moins. Alors donc on se réveille tôt et il y a le lac, il y a tous ces plaisirs de la nature, d'avoir du temps, il y a les autres, des rencontres beaucoup plus profondes. Donc au fond il y a à la fois une vie communautaire de retraite, mais à la fois une vie très 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 fraternelle, sororelle on dirait, dans cet endroit où on fait des rencontres extraordinaires, éphémères. On va peut-être pas revoir les gens.
Et alors vous avez parlé du temps. Est-ce que la relation au temps est complètement différente quand on jeûne ?
Pour moi, oui. Si on le fait bien, enfin moi, je recherche toujours un bloc de temps. J'essaye d'avoir le moins possible de rendez-vous, pour que le temps soit une masse de temps, 10 jours comme ça, jour et nuit, avec tout un tas de, disons, il faut avoir des points de repère. Alors ce sont les offices, ce sont le moment où on prend les boissons du jeûne ensemble, parce que nous ne faisons pas un jeûne à l'eau, nous faisons un jeûne avec un jus de fruits, un quart de litre de jus de fruits, un quart de litre de bouillon. Ça permet d'avoir des rencontres où on mange, entre guillemets, ensemble.
Et c'est pas le jeûne total
non,
à l'eau. Oui.
Non, c'est pas grand-chose, c'est 200-250 calories, mais ça permet de rendre le jeûne beaucoup plus tolérable. On se sent beaucoup mieux. On peut beaucoup mieux faire de l'exercice physique, des balades, tout ça. On a une petite cuillère de miel aussi à laquelle on a droit, qui de temps en temps, quand on a un petit moment de faiblesse, ça peut redonner un petit peu de courage. Donc, il y a toutes sortes d'aspects. Et puis, il y a le partage aussi du vécu corporel. Le soir, on se retrouve, chacun raconte comment il ou elle vécu la journée. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un mélange entre le vécu spirituel et le vécu du corps. Et il y a beaucoup de gens qui jeûnent pour la première fois, bon, mais ils s'intéressent seulement à leur purge, à leur foi, à leur langue. C'est normal, il faut s'initier. Au début, on n'est pas tout de suite dans l'extase, on est d'abord tout simplement dans le corps et ses bobos. Et puis la méthode, comment on fait, comment...
Françoise Villemy de Toledo, j'aimerais revenir sur une expression d'Otto Büringer, le fondateur de cette clinique spécialisée dans le jeûne thérapeutique où nous sommes actuellement. Il parlait de la gastronomie de l'âme.
Oui.
Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'il entendait par la gastronomie de l'âme. Gastronomie, c'est pas forcément en association avec le jeûne, mais là, quand il parle de gastronomie de l'âme, qu'est-ce que c'est ?
C'est justement toutes ces plaisirs intenses d'une autre nature dont on peut se nourrir à profusion quand on jeûne, donc autre chose que la nourriture matérielle. Alors pour lui, il en avait défini une dizaine à peu près. Je vous en cite ce que je me rappelle de mémoire. La lecture, la musique, l'art, la méditation, l'adoration, l'humour, les bons accompagnateurs, le contact avec les anges. Il était une personne qui se sentait entourée, portée par des anges. Donc à ce moment-là, dans le jeûne, on peut soigner sa relation avec ses bons accompagnateurs.
Il était croyant ?
C'était un homme profondément croyant, oui, d'origine protestante, mais converti au catholicisme sur le tard par un prêtre quand il était à Überlingen. Et il allait tous les matins à la messe. Tous les matins, toujours au même endroit, près de la colonne, dans la cathédrale de Berlingen, qui pour une petite ville est très très belle. Et c'était un homme qui avait une profonde spiritualité. Donc c'était pas du tout un bigot, parce que par ailleurs, quelqu'un très humoristique et quelqu'un qui aimait beaucoup la marche, qui était intéressé par toutes sortes de choses. Mais il était... je dirais dans la fin de sa vie, pratiquement, il menait une vie de moine. Il s'était séparé d'avec sa femme qui était restée dans la ville où ils étaient précédemment. Il était venu descendu au sud pour créer cette nouvelle clinique. Et donc, il était quelqu'un de très, très solitaire. Il allait se promener avec son chien. Il était en permanente méditation. Et ses écrits ont une profonde spiritualité.
Et vous pensez que c'est le jeûne qui l'a conduit à ça aussi ?
À mon avis, très, très certainement. Il devait avoir une prédisposition en lui. Mais ces jeûnes répétés l'ont affiné, affiné. Au début, et bien sûr, il a jeûné pour une fièvre rhumatismale, c'est-à-dire après une infection à streptocoque, il avait eu une terrible poussée de polyarthrite généralisée. Il avait été renvoyé de la marine, il était médecin dans la marine. Et donc, il n'avait plus d'espoir, 4 petits-enfants, plus de métier. Et c'est là que quelqu'un lui a dit, mais essaye le jeûne. Il l'a essayé et il s'est guéri en 3 semaines. Et ensuite, il est devenu végétarien. Il a complètement changé son orientation. Il a ouvert un cabinet d'homéopathie d'abord. Et petit à petit, il a commencé à soigner des gens, d'abord pour les maladies rhumatismales. Puis après, il se rendait compte qu'un rhumatisant qui arrivait, qui améliorait son rhumatisme et son diabète disparaissait, son hypertension se normalisait. Donc il s'est dit, mais ça doit être quelque chose de non spécifique, le jeûne. Ça améliore, ça permet de mobiliser les forces de régénération propre et de refaire l'équilibre. Donc c'est une force d'homéostase. Quelle que soit l'indication, quand ce n'est pas des maladies aiguës, disons où la personne est tellement dévitalisée que le jeûne n'est plus possible, ça vaut la peine d'essayer un jeûne bien conduit dans n'importe quelle situation. Donc pour lui, il a commencé par s'intéresser qu'à son corps. C'était extraordinaire pour lui de passer de l'état de quelqu'un qui était pratiquement condamné
à un
fauteuil roulant à quelqu'un qui était parfaitement normal, qui jusqu'à l'âge de 92 ans a marché tous les jours une dizaine de kilomètres, je veux dire. Après, petit à petit, il s'est rendu compte de cette autre dimension. Et c'est ça qui le fascinait. Et à la fin de sa vie, quand quelqu'un lui disait « Ah, docteur, j'ai mal au dos », il disait « Allez voir un médecin ». Lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de conduire les gens vers un dépassement de leurs limites, c'est-à-dire vers toujours plus de cohérence de vie, donc suivre le programme de Dieu en moi, c'est-à-dire pourquoi, quelles sont mes aptitudes, quels sont mes potentiels, quels sont mes... Pourquoi est-ce que je suis fait et suivre ce chemin-là. Donc ça, c'était ça. Il avait des entretiens avec les gens, mais tout ce qui était physique, il l'envoyait chez ses collègues.
Alors, ce n'est pas une phrase d'Otto Buchinger, mais c'est une phrase d'un jésuite qui a pratiqué le jeûne, qui s'appelle Niklaus Brunchen, oui. Et qui dit ceci, « La prière et l'amour du prochain sont les deux ailes du jeûne sans lesquelles il ne peut décoller. »
Oui.
D'accord avec cette phrase de ce jésuite ?
Oui, ça nous rapporte à cette triade traditionnelle dans la chrétienté, dans d'autres religions, le jeûne, la prière et l'aumône. Et sans la prière et sans l'amour du prochain, mais il dit même l'amour du prochain actif, il faut poser des actes, le jeûne est quelque chose au fond d'un peu égoïste, on perd du poids, on s'améliore. Mais il faut ouvrir le jeûne et puis s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, Lanza del Basto disait la même chose. Si tu ne veux pas être touché par la détresse de ton prochain, surnourris-toi et mange de trop, comme ça tous tes pores seront bouchés, tu ne pourras plus sentir. Donc c'est tout à fait vrai qu'on est porté à plus d'attention pour l'autre quand on jeûne.
Vous avez cité Lanza del Basto à l'instant, on pense aussi à Gandhi. Jeûne et non-violence sont souvent associés.
Totalement.
Comment ressentez-vous et percevez-vous cette non-violence ?
Quand on jeûne, ce qui domine, c'est la sérénité. Il n'y a plus d'agressivité. En tout cas, l'agressivité diminue, même si peut-être dans les 2-3 premiers jours, on est agressif parce qu'il nous manque ce qu'on aime avoir à manger, il nous manque notre beefsteak, les frites et toutes ces choses-là. Au bout d'un moment, 2-3 jours, en général, ça passe. Et on est dans un état... on n'est pas du tout porté à l'agressivité. Pas du tout. Et donc, avec la non-violence, c'est pratiquement 2 dynamiques qui vont ensemble. Mais il faut que le jeûne soit volontaire. Si on vous l'impose, vous pouvez devenir terriblement agressif. Quand on vous retire votre assiette, ça fait plaisir à personne, parce qu'on n'est pas prêt, on ne dit pas oui. Mais quand c'est la personne qui dit oui, à ce moment-là, on s'ouvre à une réalité de non-violence, mais automatiquement.
Depuis le début de cette émission, je vous écoute, tout semble excessivement positif, on peut presque tout guérir par le jeûne. Y a-t-il des contre-indications quand même ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner ou qui ne doivent pas jeûner ?
Moi, j'estime que l'envie de jeûner est déjà une très importante. Quand quelqu'un n'a pas envie, quand il se dit « non, ça ne m'intéresse pas, ouf, je ne m'en sens pas capable », Ça, il faut être très, très, il faut vraiment écouter. Ensuite, c'est une question de vitalité. Le jeûne n'est quand même pas une promenade du dimanche. C'est vraiment une course de montagne de moyenne intensité. C'est-à-dire, il faut être bien préparé. Il faut avoir quand même encore une bonne vitalité. On peut être très fatigué, mais avoir quand même une bonne vitalité. Et ça, c'est le médecin spécialisé dans le jeûne qui peut estimer est-ce que cette personne a la vitalité qu'il faut pour jeûner. Sinon, on le laisse manger. Par exemple, à la clinique, nous avons à peu près 30% des personnes qui ne jeûnent pas. Elles mangent une nourriture végétarienne, biologique, très saine, avec des très bonnes huiles, réduite en calories s'il le faut. Et c'est une très bonne alternative au jeûne. Donc il n'y a pas que le jeûne. Mais le jeûne doit vraiment se faire quand on a la possibilité. Ensuite, il y a des contre-indications, c'est-à-dire les maladies très très invalidantes où on doit prendre beaucoup de médicaments. Ça, c'est très difficile. Les médicaments doivent être toujours redosés dans le jeûne. Mmh. C'est un peu un problème.
Et les gens qui ont un cancer et qui sont avec des chimiothérapies?
Alors, les recherches de l'Américain Walter Longo, publiées dans les grands journaux scientifiques, ont montré que, par exemple, chez les animaux, la chimiothérapie est beaucoup mieux supportée quand on jeûne. Et la tumeur régresse chez l'animal lorsqu'on le fait jeûner.
Ça, il l'a observé chez les rats, mais est-ce qu'on l'observe chez les humains aujourd'hui?
Chez les humains, c'est plus difficile. Donc, il y a eu des publications de ce Longo qui montrent, par exemple, que les gens qui ont lu ces articles, qui ont vu que chez les animaux, les tumeurs régressaient, qui se sont dit, je veux essayer. Et j'essaye. Et j'attends pas qu'il y ait des protocoles parce que je serais mort avant. Donc, j'essaye de mon propre chef. Ces gens-là ont témoigné qu'ils avaient eu une énorme amélioration des symptômes de la chimiothérapie. Donc, ils avaient eu beaucoup moins de nausées, beaucoup moins de fatigue, c'était remis beaucoup plus vite. Mais on n'a pas encore des études faites sur tout le monde. Et je pense que dans la médecine naturelle, cette idée qu'il faut tout randomiser, comme on dit, c'est-à-dire prendre un groupe, le diviser en deux, puis dire, voilà, vous jeûnez, vous jeûnez pas.
Faire des protocoles d'observation très stricts.
Oui, nous préférons beaucoup dire, qui est-ce qui veut jeûner? Qu'est-ce qui a envie de jeûner? On met ça dans un groupe positif. Et ceux qui n'ont pas envie de jeûner, parce qu'on pense qu'il y a quand même une intelligence du corps, un médecin intérieur, comme on dit, qui sait que quelque part, on a souvent une intuition de ce qui est bien pour nous et ce qui est moins bien. Alors, il y a quelques contre-indications, justement, quand on a des maladies qui nous dépassent, si vous voulez. À l'époque, on disait la tuberculose floride, c'est-à-dire la personne, la vitalité de le système immunologique est complètement écrasée par la maladie. Ça, ce serait... Ou alors, il y a des hyperthyroïdies non traitées, par exemple. Il y a la grossesse, mais ce n'est pas une maladie. En général, à partir du deuxième trimestre, il faut manger. Les contre-indications... Et l'anorexie est une contre-indication certaine. Parce que c'est une maladie psychique. C'est beaucoup laissé au jugement du médecin. Et bien entendu que si vous faites un jeûne non suivi médicalement, il y aura... Toutes les maladies sont des contre-indications. Mais quand vous avez un jeûne suivi médicalement, c'est le médecin qui voit si pour telle ou telle maladie, on peut se permettre un jeûne court, par exemple, ou alors carrément un jeûne long. On n'a pas beaucoup de contre-indications formelles. Ça dépend qui vous suit.
Docteur Françoise Villemy de Toledo, pour terminer cet entretien, question vraiment personnelle cette fois-ci. Qu'est-ce que la pratique du jeûne vous a enseigné, vous, personnellement, d'essentiel, de fondamental, et qui a changé votre vie?
Ça s'est produit sur la durée. C'est-à-dire que depuis l'âge de 17 ans, je dirais, je jeûne chaque année. J'en ai 60 aujourd'hui. Et parfois même deux fois par an. Et je me suis rendu compte que ça m'a donné comme une colonne vertébrale. Chaque séance de jeûne a été une révélation pour moi. Et parfois, je mettais une intention de moi. Une fois, j'ai jeûné parce que je voulais améliorer la relation à ma mère, une fois la relation à mon père, après à mes frères et sœurs. Souvent, j'ai des conflits, disons, ponctuels. Et je les mets toujours comme intention de mon jeûne. Et ça m'a toujours permis une ouverture par rapport à ces... Parfois, des ouvertures extraordinaires avec des synchronicités. Donc, pour moi, le jeûne, c'est mon école de vie, je dirais. C'est mon moment de ressourcement, c'est ma retraite. C'est mon retour à la source, on dirait. Et donc, je ne peux pas imaginer ma vie sans ces moments-là. Maintenant, si un jour, je ne pouvais pas, pour une raison, par exemple, je devenais très, très maigre ou extrêmement malade, je me suis rendu compte que on peut être dans l'état de jeûne sans jeûner. Mais ça, c'est nouveau. Et ça, ça vient qu'avec une grande, grande pratique. Donc, l'approfondissement aussi de ma foi, de le retour à la foi chrétienne, par exemple, grâce à la communauté de Grand Champ, ça a été possible justement parce que le jeûne m'a attirée. Et puis que ça s'est fait chaque année, que petit à petit, ça m'a permis d'approfondir. Donc, je ne peux pas compter le nombre de bienfaits que le jeûne représente dans ma vie, mais ça a toujours été un jeûne qui a été fait dans un cadre précis, avec un rituel, avec un début, avec une fin, avec une reprise alimentaire, sans laquelle on ne peut pas vraiment... qui est nécessaire pour réussir un jeûne.
Merci beaucoup, docteur Wilhelmine Toledo, de nous avoir aidé à redécouvrir autrement le jeûne. Je conseille à tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce que nous venons d'évoquer ensemble de se plonger dans votre livre « L'art de jeûner » aux éditions Jouvence. Et pour ceux qui souhaiteraient vivre une expérience de jeûne accompagné, je renvoie au site internet de la clinique Buchinger, on dit Buchinger en français, B-U-C-H-I-N-G-E-R, ou encore au site de la communauté œcuménique de Grandchamp en Suisse. Merci, docteur Wilhelmine Toledo.
Merci bien.